D'une impasse délabrée d'une zone industrielle désaffectée, gisent les ruines d'un data center éteint. Pour se donner des frissons, des enfants du numérique y rentrent nuitamment par effraction. Et devant les braises d'un Minitel fumant, se racontent des histoires inavouables qu'on n'ose même pas évoquer sur un Slack. Mais ils ne savaient pas que la salle serveur où ils commettaient leurs actes profanes était hantée.
Bonsoir, je suis Unfestedgrunt. Comme l'indique mon pseudo, je suis un grand fan des jeux de Blizzard Entertainment. Warcraft, Starcraft, les Vikings perdus. Comme de nombreux fans, j'avais acquis le jeu Diablo 3, le troisième série de jeux en 2011, soit près de 10 ans après le dernier opus, l'extension Diablo 2, Lord of Destruction. El Diablo faisait quelques apparitions caméo dans les autres jeux de Blizzard. World of Warcraft, Starcraft 2, et j'en passe. La planète sanctuaire et l'église de Tristram manquaient à beaucoup de fans du hack and slash. Enfin la délivrance. Le soir du 15 mai 2012, date de sortie de Diablo 3, partout dans le monde, des centaines de milliers de joueurs vont se connecter à Battle.net pour découvrir la suite du jeu mythique. Mais certains vont hélas être confrontés à un boss implacable. L'erreur 37. Pendant de longues heures, certains joueurs tenteront en vain de se connecter, pestant contre l'impossibilité de jouer hors ligne. J'avais régulièrement le message « Vous êtes la 380e âme dans la file d'attente ». Et au bout de cette attente, l'erreur 37. Chez Blizzard, une bonne partie des développeurs font la fête avec des centaines de fans à l'Irvine Spectrum, retransmission en direct sur YouTube et l'application Battle.net, et ne savent encore que l'enfer les attend. Et toi, tu fermes Diablo 3, tu relances Battle.net, tu le réouvres à nouveau et erreur 37 et... Comme l'explique Josh Mosquera, un développeur et chef de projet sur console, à ce moment-là, tout le monde a été pris par surprise. Cela peut paraître inimaginable, mais ce fut réellement le cas. Et toi, tu relances encore une nouvelle fois Diablo 3. La fiche sur l'erreur 37 arrive enfin dans l'assistance de Blizzard. Le service d'authentification connaît actuellement un trafic très important. Veuillez réessayer plus tard. Quand il fut question de préparer l'infrastructure pour Diablo 3, Blizzard s'était lancé dans différentes prédictions et a décidé de les doubler et même les tripler pour que tout soit prêt pour le lancement. Mais ce ne fut pas du tout suffisant. Pourtant, j'étais sûr d'avoir choisi la zone Europe et pas les deux autres zones, Amérique et Asie. Oui, oui, les serveurs avaient été répliqués dans les trois régions de Blizzard. Et toujours là. Pendant deux jours, les ingénieurs vont se relayer pour régler les soucis, se rendre compte que les joueurs étaient notamment frustrés par des centaines et même des milliers de messages d'erreurs, souvent incompréhensibles. Quelqu'un a rencontré l'erreur 3006, vous savez, la requête d'accès à ton personnage qui a échoué. Et oui, non, toujours pas. L'UFC Que Choisir et d'autres associations de consommateurs et des joueurs vont même solliciter ces derniers pour des actions de groupe. 15 000 joueurs réunis pour l'UFC. Le Blizzard va être brûlant, car l'erreur 37 a affecté aussi les autres jeux de Blizzard. Non, pas Ombrage, mon perso sur WoW. Non, pas le lieutenant Brian. Ah, oh, mon commandant Terran contaminé sur Starcraft 2. Non, pas d'accès. à Irvine, c'est bien sûr le branle-bas de combat. Après 48 heures, les serveurs sont stabilisés et même si certains joueurs expérimentent parfois de petits soucis, les choses rentrent dans l'ordre. Blizzard s'excuse donc publiquement d'avoir déçu les joueurs et les encourage maintenant à foncer vers le seigneur la tueur pour lui régler son compte. Chargez ! Quoi ? Encore l'erreur 3006 ? Oh bordel ! Dans les semaines qui suivent, cependant, Blizzard va se rendre compte d'autres problèmes. La difficulté montait ainsi trop vite, le mode Armageddon. Une seule vie seulement, mort et retour au début, sans possibilité de reprendre son personnage. S'avérait extrêmement difficile, impossible sans mourir. Adieu ma Tasha, ma chasseuse de démons, perdue dans le Styx. Ah. Pour en venir à bout, il faut des objets qui ne dropent. En fait, apparaissent uniquement lorsque l'on bat des monstres que dans ce mode de jeu. Les joueurs se tournent alors avec la nouvelle fonctionnalité du jeu, les hôtels de vente, une sorte de eBay avec les objets et les monnaies du jeu et que s'échangent les joueurs d'une même zone pour s'équiper et le jeu perd ainsi une de ses fonctionnalités clés, quoi, à savoir le plaisir de s'équiper sur la base des milliards de loot, les gains, qui peuvent monstre après monstre. Oui, 3 heures passées sian à aller attaquer toujours le même personnage pour obtenir enfin cette arbalète que tu rêvais. Comment Blizzard ne s'est-il pas rendu compte de ces problèmes pendant le développement ? La raison est en somme tout assez simple. En moins d'une journée, les joueurs ont accumulé plus d'heures de jeu que tout ce que les développeurs ont expérimenté pendant les 7 années passées sur le développement du titre. Diablo 3 passe ainsi pour un pay to win. Les joueurs doivent payer des objets inédits pour progresser dans le jeu. Et ça, les joueurs n'aiment pas. Et la série, passée au panthéon vidéoludique depuis longtemps, doit descendre de son piédestal. Néanmoins, le jeu rencontre un succès colossal, avec 10 millions d'exemplaires vendus en seulement 2 mois. Si certains éditeurs se seraient contentés de cela et seraient passés à autre chose, Blizzard encaisse assez mal la déception des joueurs. La société réputée pour sortir de véritables tueries ne peut pas laisser passer, va tout faire coûte que coûte pour remonter dans l'estime de son public et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et vous, qu'auriez-vous fait et dire que certains n'arrivent pas à tenir une émission économique le dimanche soir ?
And dance with the devil!
Now remember, the instant you finish it, I own your soul for...
You're the devil in disguise. Just call me Lucifer!
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
Better to reign in hell than serve in heaven, is that it?
Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man has been inspired to have. I cared about what he wanted, and I never judged him.
In the beginning, God always overpowered the evils of all man's sins. But in time, the nations grew weak, and our cities fell to slums while evil stood strong. In the dusts of hell lurked the blackest of hates, for he who in fear awaits you. Now, many, many lifetimes later, lay destroyed, beaten down, only the corpses of rebels, ashes of dreams and bloodstained streets. It has been written that those who have the youth have the future. So come now, children of the beast, be strong and shout at the devil.
All right now, boys and girls, we've got another story for you now. We want to introduce to you another friend of the Bible.
I'm the D-E-V, I'm the D-E-V-I, I'm the D-E-V, I'm the D-E-V-I, I'm the D-E-V, I'm the D-E-V, I'm the D-E-V-I, hell.
Soul to steal. He was in a bind because he was way behind. He was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot,
and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul is a lot better. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, you're awesome up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals in cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Up his case and he said, I'll start this show, and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow, and he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss, and then a band of demons joined in and it sounded something like this. Well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, pick it out, though. Granted that you don't bite, no chano.
The devil, the devil.
The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. He laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played, found him out, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. You don't buy no child, no.
Devilishly clever.
Radio éphémère 89.1 mégahertz.
Je vais vous raconter l'histoire d'un génie dont la vie a basculé dans le tragique. John est né en 1945 en Angleterre. Il grandira aux États-Unis où il fera une fac dans les mathématiques. Son premier vrai taf sera informaticien à la NASA entre 1968 et 1970. À l'époque, il fallait être un génie pour se retrouver développeur informatique à la NASA. John McAfee quittera néanmoins son prestigieux employeur pour déménager dans la Silicon Valley en plein boom, rejoignant Univac comme développeur système, puis Xerox comme architecte de système d'exploitation. Il devint consultant logiciel en 1978 et enchaîne les contrats de mercenaire pour différentes boîtes de très gros systèmes et entreprises en armement. C'est par hasard qu'il rencontre Brain en 1986. Brain est le premier virus pour MS-DOS. À l'époque, les ordinateurs de cette taille étaient rarement connectés, mais on pouvait les infecter via des disquettes. D'ailleurs, les virus se trouvaient depuis belle lurette sur d'autres plateformes depuis une dizaine d'années au moins. Il y a même un petit auteur de SF, Michael Crichton, qui avait imaginé qu'un virus rende fou les robots dans un parc d'attractions, et il en avait fait un film, Westworld, dont je ne compte pas la suite. Mais je pars complètement à l'ouest. Brain était une petite saloperie, mais une toute petite saloperie. Il ne tentait pas de détruire les données, il ne faisait que ralentir les lecteurs de disquettes et squatter un peu de mémoire dans un coin, rendant le PC encore plus pénible à utiliser. Brain est issu des cerveaux de deux frères pakistanais qui voulaient protéger leur logiciel médical
Ils avaient peur des pirates, mais leur création maligne leur a vite échappé des doigts et s'est retrouvée à infecter des millions de disquettes et d'ordinateurs qui n'avaient jamais vu leur logiciel. La curiosité de John McAfee l'a amené à rencontrer une disquette infectée par Brain. Il va créer un logiciel qui va nettoyer les disquettes infectées de ce virus et des variantes qui commencent à apparaître. Ce logiciel sera le premier antivirus commercial sur PC, capable de détecter plusieurs virus différents et de les nettoyer, les éradiquer. Comme John est modeste, il va lui donner simplement son nom, McAfee, et créera sa boîte, McAfee Associates, en 1987. Pour vendre son soft, il aura l'idée d'utiliser la peur comme méthode commerciale. La peur, prédisant des millions et des millions et des millions de dégâts en longueur d'interviews et de présentations commerciales. Oui, il était encore trop modeste pour parler en milliards. Il avait trouvé son filon et sera loué par ses utilisateurs comme un sauveur. Et par son équipe, souvent des copains. Il faudra peu de temps pour que le succès lui monte à la tête. John McAfee est le gourou. McAfee Associates se paie des locaux et pense au confort de son équipe de dev. À sa manière. Il engagera 3 sorcières Wicca à plein temps pour McAfee Associates. Oui, oui, des sorcières. Chargées de rituels comme les pentagrammes à l'entrée, les invocations d'esprit au tambourin avant les présentations marketing et la purification des postes de dev, en général par des saillies. En 7 ans, après avoir fondé McAfee Associates, il quitte l'entreprise et revend ses parts pour 100 millions de dollars, une somme qui permettrait à un méchant James Bondien de se payer un luxueux repère. Il s'est offert une montagne où il construira un centre de relaxation yoga, où il deviendra prof pour ses nouveaux disciples, donnant des cours, des séminaires et publiant des livres. En 2009, il avait investi sa fortune dans l'immobilier. Mais la crise économique va faire fondre sa fortune d'une centaine de millions de dollars à moins d'une dizaine. De quoi devenir fou ? Non, il était déjà, mais pas complètement. Il a investi à côté dans un petit labo pharmaceutique à la recherche de nouvelles molécules dans la flore tropicale. Un labo qui est dans sa nouvelle luxueuse propriété. Une maison avec la plage en guise de terrasse, dans le paradis fiscal du Belize. Un confetti coincé entre le Mexique et le Guatemala. John se montre très vite obsédé par sa sécurité, parano jusque dans l'usage de son téléphone. Il est persuadé qu'avoir créé un antivirus mondialement connu a fait de lui la cible de gangs de hackers. Alors, plusieurs armes à feu ne lui suffisent plus. Il fricote donc avec des personnes peu recommandables qu'il charge de sa sécurité. Dans les faits, il s'est monté une vraie milice qui terrorise les villages voisins. Mais il s'acoquine avec des bandits locaux, ce qui lui attire des ennuis. Il a plusieurs fois été soupçonné de trafic de drogue, construction d'un labo de méthamphétamine et détention d'armes de guerre, ce qui lui vaudra la visite du SWAT local, et pas pour prendre une bière. Mais comme il arrose certaines autorités locales, on lui fout la paix. Si la police municipale a une voiture, c'est qu'il l'aura payée. Entouré d'hommes en armes, à l'ombre des palmiers, John conforte son statut de vrai gourou qui entretient un harem d'adolescentes soumise à ses fantasmes scatophiles. John va croiser une biologiste qu'il trouve mignonne, Allison Adonisio, qui s'est spécialisée dans la recherche d'antibiotiques, et lui propose de rejoindre le labo de sa petite firme pharmaceutique. Oui, le labo dans un appentis au fond de son jardin. Un coin de paradis qui devient vite oppressant quand la scientifique entend parler de son patron dans des histoires de viol et de crimes non résolus. McAfee la droguera et la violera. Elle fuira en catastrophe, ayant réussi à acheter un billet d'avion avant qu'il ne coupe le courant de son appartement et qu'il la course avec un fusil à pompe. Mais aucun policier n'ira déranger le gringo John McAfee. Car quand John trouve sa tranquillité trop dérangée. On ne sait pas de quoi il est capable. Il poursuivra un voleur et le torturera au taser et au couteau. En novembre 2012, le voisin de plage de McAfee, Gregory Vianfall, fut retrouvé criblé de balles parce qu'il se plaignait de ses chiens hyper agressifs. Très vite, la police locale soupçonne le nabab américain. Mais à peine arrêté, il se trouve tellement malade quand on l'interroge qu'il faut l'envoyer dans une clinique au Nicaragua. Comme de par hasard. Mais le Nicaragua n'en veut pas et John McAfee se retrouve expulsé aux États-Unis. C'est pratique de se retrouver expulsé dans sa patrie. Les États-Unis n'expatrient jamais leurs ressortissants. Soupçonné de meurtre et échappant à la justice locale, le nom de McAfee commence à sérieusement sentir le soufre. Au point qu'Intel, qui a racheté son antivirus depuis Belle Lurette, annonce en 2014 qu'il rebaptisait l'antivirus McAfee en Intel Security. John a répliqué dans une vidéo virale. Une vidéo virale. Où il apparaît en peignoir, entouré de trois naïades, courtement vêtues, disant que l'antivirus en question était devenu le pire logiciel possible et qu'il fallait le désinstaller. Objectivement, il n'avait pas tort. Quand John McAfee retire son peignoir de bain, il se mêle de politique, se définissant comme libertaire, pour la légalisation des drogues, le repli militaire et diplomatique des États-Unis, la libéralisation à outrance, la discrimination à l'embauche pour conscience religieuse et pour la suppression des aides sociales et médicales. Il s'est présenté pour les élections présidentielles américaines en 2016, mais il a perdu aux primaires du Parti libertaire. À la DEF CON 2014, John a dénoncé les programmes de surveillance gouvernementaux et les logiciels sur smartphone trop indiscrets. Mais il est facile d'hurler avec la foule après les révélations d'Edward Snowden. McAfee a pris des postes à responsabilité dans différents capitaux risqueurs. Il s'est autoproclamé porte-parole des startups spécialisées Bitcoin et consorts. Et pour 105 000 euros, il peut vanter dans un tweet ta crypto-monnaie à ses 800 000 abonnés. Parce que, ouais, à 73 ans, le vieux beau est un influenceur charismatique et le monde de l'informatique parle encore de ce gourou en baissant la voix. On murmure que Johnny Depp va l'incarner au cinéma. L'excentricité n'est pas un crime, mais les lubies de John McAfee n'ont plus rien de marrant, car sa vie raconte l'histoire d'un super vilain, un vrai, un qui vous fait croire qu'il ne veut que votre sécurité, mais qui pourrait vous tuer dans la nuit dans un accès de folie paranoïaque.
regard d'utilisateur au plantage fantôme qui se tapine dans un coin de la machine.
John est graphiste. Sous pression. Pressé par son banquier. Lâché par sa femme. Essoré par ses clients. Serré dans des délais démentiels.
Chris, tu sais ce que j'ai fait la dernière fois que le courant a sauté de deadline chez l'imprimeur.
Ah, en salle le 30. CPU squat un data center hanté, bienvenue dans les logs de la crypte. Je suis Dascritch et je vais vous raconter l'histoire d'un jeu dont tu étais le héros. C'était au collège, on se passait les disquettes entre nous, parce que les ordinateurs étaient très chers, et les jeux aussi étaient très chers. Mais il y avait des copains malins qui avaient des disquettes avec des jeux copiables. Sans les protections, sans avoir le manuel ou la boîte, et surtout, chut, sans le dire aux parents parce que c'est pas bien de voler. Les copains constituaient des listes de jeux, et pour 5 ou 10 francs, 8 fois moins cher que le jeu de neuf et véritable, le copain ramenait le lendemain une disquette avec le jeu parfaitement fonctionnel. Et même parfois le manuel résumé en une page sur l'imprimante à aiguille. Oh, il manquait bien souvent les détails, mais cela suffisait si on aimait bricoler, tester des touches ou des commandes. À côté, on était la même bande qui jouait aux jeux de rôle. On adorait jouer à Donjons et Dragons, L'Appel de Cthulhu, L'Œil Noir. À cette époque, on commençait à voir les premiers jeux d'aventure sur ordinateur, mais il n'y avait pas de vrais jeux de rôle. On disait alors que c'était les jeux dont tu es le héros, comme les jeux en livre de poche. Et la plupart du temps, c'était des interfaces de texte avec un graphisme immobile à l'écran. Les commandes étaient souvent des mots simples comme « regarder »,« aller ouest » ou « tirer ». Toute l'aventure était dans les phrases que te répondait l'ordinateur. Un jour, un copain a obtenu un nouveau jeu, Noir. Un jeu d'aventure entre gangsters et policiers où on incarnait un détective. La surprise est que ce jeu piraté était d'un éditeur connu, mais il n'est jamais sorti. En fait, il était vaguement annoncé, mais personne n'en savait plus. Quelqu'un a probablement piqué une des disquettes de développement. Alors moi, je n'ai pas joué à ce jeu. En tout cas, pas longtemps, parce que j'avais pas le bon ordinateur. Il fallait un Commodore 64, mais cet ordinateur était vraiment trop cher. Tu mettais la disquette dans le lecteur, tu lançais la commande, t'avais une intro « Cracked by the Time Lords » et le jeu commençait. En jaune sur fond noir était dessiné le logo noir. Tu appuyais sur une touche et un texte défilé racontait que tu étais dans ton bureau de détective, seul, avec un journal, une bouteille de whisky et des cigarettes. Alors évidemment, tu demandes à l'ordinateur de te décrire. C'était un rituel dans ce genre de jeu. Et la surprise, le jeu décrivait ce que tu portais. Une veste en jeans, une chemise, la couleur des chaussures. On était vraiment le héros. Et sur le bureau de mon camarade, il y avait un sticker avec le singe de la marque Waikiki. Le jeu parlait d'une carte postale des plages Waikiki. Après, il y avait l'histoire dans le journal qui t'emmenait sur une première affaire. Et le reste est assez classique. On a déjà ce genre d'histoire vu et revu. Mais voilà, on était dedans. Bon, après, le jeu avait aussi quelques bugs. L'ordinateur chauffait beaucoup. Le lecteur de disquette ne s'arrêtait pas. C'était vite insupportable. Mais pourtant, les trois copains qui l'ont eu étaient fascinés et ont passé le week-end suivant à y jouer. Toute la journée. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment très étranges. Chacun des trois ont joué toute la journée, chacun a eu des déconvenues dans le jeu, l'un ayant eu une bagarre dans un bar, l'autre a réchappé de l'incendie d'une voiture, et le troisième jeté par les malfrats dans le fleuve du haut d'un pont. C'est du moins ce que l'on sait, car il avait noté sa progression dans le jeu, et qu'il est mort dans son sommeil, noyé. Les deux premiers se sont réveillés, l'un le bras cassé et l'autre le visage brûlé. Et sans qu'on puisse dire comment. Très vite, les parents, les docteurs, les policiers ont demandé ce qui s'était passé. Et le jeu piraté fut découvert. Le petit trafic aussi. C'était fini, les ordinateurs pour ces trois-là et pour les autres. Alors comment un jeu pouvait-il faire ça ? Est-ce que c'était une tentative pour supprimer le piratage qui a mal tourné ? ou quelque chose d'autre. Ce que l'on sait, c'est que les gens très sérieux sont passés. Des militaires, des messieurs avec des uniformes qu'on ne voit qu'à la télé. Et même des messieurs qui parlaient anglais avec une obsession autour de trois mots. Secure, contain, protect. Je trouvais que c'était vraiment beaucoup de moyens pour un simple jeu piraté. Une fois qu'ils étaient passés, on n'avait plus jamais en retrouvé les disquettes de ce jeu. Jamais plus jamais. D'ailleurs, j'ai eu beau écumer la presse de l'époque, les magazines et livres savants sur l'univers vidéoludique ou les forums sur Internet. Jamais personne n'en a entendu parler. Dommage. Depuis, quand on parle d'un inédit sur un ordinateur antique, j'ai comme une méfiance.
Général, le commando que vous attendiez vient d'arriver. Le général de Valois était penché sur une carte stratégique, en discussion avec ses officiers. Le jeune sergent avait hésité à l'interrompre pour l'informer de l'arrivée d'un groupe de soldats en train de franchir à cheval l'entrée du camp militaire. Le chef du commando se présenta. « Colonel Ruby, à vos ordres, mon général. Division 4 au complet et au rapport. » Le général lui demanda. « C'est vous la division 4 ?» J'ai demandé une unité spéciale et c'est vous qu'on m'envoie. Je m'attendais à des types en tri, armés jusqu'aux dents, et vous voilà avec vos têtes d'intello et vos vieux bouquins. Oui, général, nous sommes une unité spéciale, c'est le cas de le dire. Et ces vieux bouquins sont des grimoires inestimables. Mais pourquoi vous appelle-t-on la division 4 ? Il y a une division 1, 2 ou 3 ? Où sont-ils ? Ça, général, c'est une très bonne question et une très longue histoire. Mais revenons à notre affaire. Pourquoi vous nous avez appelés ? Regardez ce village autour de vous. Ça ne vous semble pas étrangement calme ? Si. On dirait que tous les habitants ont disparu. Exactement. Tous les habitants ont disparu. Ainsi que la garnison de 20 militaires qui gardaient la ville. Pas un appel d'urgence, pas une alerte. Pfiou ! Volatilisé. Merci, général. On va se mettre au travail. Le petit groupe installa ses quartiers dans une tente et se mit en quête d'informations sur le lieu, dans les caisses de documents qu'ils avaient amenées. Colonel Ruby ? Oui, lieutenant Emeraude. D'après les cartes des prêtresses du temple Internet, la ville est construite sur un très ancien temple avec beaucoup de ramifications. Ancien comment ? Suffisamment vieux pour remonter avant le cataclysme. Très bien. Où se trouve l'entrée ? À peu près à 10 mètres au sous-sol. Ils entrèrent dans une pièce remplie d'armoires métalliques, elle-même remplie de vieilles machines hors d'usage depuis des décennies. Seul un écran affichait encore un tiret clignotant d'un vert brillant sur le fond noir. Le colonel saisit un objet étrange, composé de plusieurs carrés mobiles, chacun représentant un symbole d'un alphabet ancien et perdu. Très bien. Cadet Topaz, allez chercher le grimoire des anciens. Topaz retourna près du convoi équestre et tira deux épais livres d'une caisse en métal. L'un était jaune, d'une centaine de pages très fines, et l'autre était fait de pages blanches très épaisses. Le colonel ouvra le premier livre et tenta d'en déchiffrer les symboles mystérieux. Fleuriste Dupont, 3 rue du Général de Gaulle. Garagiste Renaud, Jean-Paul et fils, 4 rue du Général de Gaulle. Malheureusement, je ne comprends rien à ce charabia. Topaz, c'est bien le livre que je vous ai demandé. Excusez-moi, colonel, lui répondit-il, et lui tendit l'autre livre. Le colonel Ruby prit le livre blanc et tenta de reproduire les symboles sur le clavier de commande. P-R-I-N-T-H-E-L-L-O-W-O-R-L-D. La machine afficha Hello World. Bien, tentons autre chose. C-A-T-4. La machine afficha une liste de noms, correspondant au nom des habitants. Le colonel tapa la commande Run, indiquée dans le grimoire, puis l'un des noms de la liste. Run, Valira. Une femme se matérialisa à côté de lui, dans un nuage d'éclairs. Bonjour, se dirent-ils tour à tour. Que m'est-il arrivé ? Où suis-je ? Demanda la villageoise. J'espérais que vous nous l'apprendriez. Eh bien, je ne me souviens pas de grand-chose. Nous étions réunis ici dans le temple pour vénérer les anciennes reliques. Tout d'un coup, nous avons été téléportés ailleurs, dans une dimension différente, dans une grande pièce blanche avec, pour ainsi dire, rien du tout. Après une courte réflexion, le colonel déclara d'une voix calme. Donc cette machine peut faire apparaître des villageois selon les instructions données. Si c'est le cas, c'est sûrement elle qui les a fait disparaître. Quand tout à coup, une surtension dans l'alimentation électrique fébrile du temple fit redémarrer la machine, et brusquement, la villageoise disparut, ce qui confirmait les conclusions du colonel. La division 4 continuait de parcourir le vieux grimoire. Il y était question d'un ancien pouvoir oublié mais très puissant, du nom de Linux. Tandis que la machine redémarrait, elle affichait effectivement les mots Debian et Linux, dans un style beaucoup plus récent que le système précédent. Le cadet Topaz tapa les lignes du grimoire. CP, étoile, slash, slash, H-O-M-E. Alors qu'il appuyait sur la touche entrée, toutes les autres personnes disparurent pour se retrouver dans une pièce blanche lumineuse. Tous les villageois étaient là, comme prisonniers de la machine. L'équipe commença à discuter avec eux, alors que Topaz aperçut dans la pièce une machine identique à la précédente, et se décida à reprendre les manipulations. Alors que Topaz tentait de se souvenir des formules lues dans le grimoire, le colonel Ruby paniqua. Il reconnaissait sur l'écran une formule interdite que nul ne devait jamais utiliser, un tabou ultime dont il ne connaissait pas les dangers. Il s'écria « Topaz, non, n'appuyez pas sur entre !» Le noir total se fit, plus un bruit, plus personne, plus rien. Dans la salle du temple, sur l'écran cathodique, quelques mots lumineux s'affichaient encore. « RM-RF étoile ».
Yeah.
Rediffusion d'un extrait de l'hallucinarium éphémère du 29 octobre 2014.
Et ici, on a bien conscience de l'importance du numérique. C'est pour ça que chaque semaine, on accueille Dascritch qui nous fait une chronique sur la vie numérique.
Oui, enfin la dernière fois quand même, hein, tu m'as foutu un coup dans les codes, j'ai pas du tout apprécié. C'est pour ça que je suis venu avec trois copains qui sont déguisés en mecs de la fondation SCP, puisque c'est bientôt Halloween du coup, donc j'ai un sujet là-dessus.
Il y a une petite porte de secours par laquelle je vais sortir ce soir pour finir tranquille.
J'espère bien, Bonjour à toi enfant du futur immédiat, à toi qui nous écoutera dans quelques secondes le temps que le son fende les éthers. La syntaxe wiki, c'est un langage qui décrit la mise en forme d'un texte et les hyperliens. Il est supposé être plus simple et pratique que le HTML, entre autres utilisé par le panda roux. La technologie wiki est utilisée bien au-delà de la Wikipédia. Elle sert par exemple à écrire des manuels techniques. Elle sert aussi à écrire des encyclopédies très spécialisées, comme sur les Pokémon, ou parodiques, comme la désencyclopédie. Comme ce week-end nous fêterons Halloween, je vais vous parler d'une encyclopédie collaborative fictionnelle que j'apprécie énormément. La SCP Foundation, SCP pour Secure, Contain, Protect. Le site scp-wiki.net décrit un inventaire d'objets, d'artefacts, voire d'êtres fantastiques, incroyablement dangereux, lesquels sont soigneusement sécurisés, étiquetés, contenus, décrits et protégés du public normal. Enfin, à peu près.
Je suis dedans ou pas ?
Je me pose la question. Nous sommes dans un univers mélangeant horreur et science-fiction entre les séries Torchwood et Warehouse 13. Alors le site original est en anglais, mais il existe des versions traduites, notamment le francophone fondationscp.wikidot.com, qui comporte des articles originaux créés par les traducteurs. Et j'ai oublié de dire qu'encore une fois que la chronique est publiée en même temps que je l'ai dit à l'antenne, parce que pour les liens ça va être plus simple quoi. L'écriture d'un univers fictionnel en mode collaboratif est quelque chose de passionnant. Surtout qu'il y a de nettes divergences de vues qui ont été regroupées en canons, ce qui laisse à chacun le choix de décider si la Fondation SCP est une émanation de l'ONU archi-secrète, une secte multimillénaire ou une organisation paramilitaire financée par les multinationales. Le SCP Wiki est, comme toute encyclopédie collaborative, un objet vivant. Au gré des artefacts nouvellement indexés, redécrits ou supprimés, les pages bougent, la fiction se fait vie. Alors évidemment, tout nouveau contributeur ne se lance pas comme ça puisqu'il faut en maîtriser l'univers, les codes et surtout le langage wiki. Heureusement, il y a un espace bac à sable où les nouveaux conspirationnistes peuvent se faire aider par les agents nettement plus habitués au terrain. De là, on découvre les termes comme les classifications d'objets, les niveaux d'accréditation secret défense, les méthodes d'intervention et les différentes classes hiérarchiques de la Fondation SCP. Et libre à vous, à partir de là, de créer une histoire par les pistes laissées par les autres, puisque les participations sont en licence Creative Commons. Il y a même des vidéos, des bandes dessinées, des photos, il y a plein de trucs autour. Mais la partie la plus intéressante, la partie maîtresse de l'œuvre collaborative, est l'inventaire des objets. Certains sont des gags, comme le catalogue de vente par correspondance de la Fondation SCP, ou la pierre de procrastination qu'aucun savant n'a réussi à décrire à temps, avant de se dire, je le mets de côté, je ferai ça demain. D'autres sont des histoires génialement terrifiantes. Entre la SCP-1316, le chat démon qui émet sur ondes courtes, le SCP-087, l'escalier qui descend vers une obscurité plaintive, ou encore SCP-904, un mot, un simple mot, un mot terriblement dangereux qui est un véritable virus de la pensée et que les pontes de la Fondation SCP ne doivent même pas savoir ce qu'il décrit. J'ai trouvé cette idée géniale que le mot exprime parfaitement qu'on puisse tuer par le stylo, par le clavier. Ce mot terriblement... Eh mais qu'est-ce que vous foutez avec ce lance-lame là ? Non mais... Oh !
Veuillez nous excuser pour cette interruption des programmes de suite et au générique de ma vie, même exceptionnellement préenregistré.